Vous êtes sur Radio Orient, merci de nous rejoindre. Il est 13h, le journal Nadia Bencher. À la une de l'actualité de ce vendredi 31 juillet, cette entrée massive de migrants depuis le Maroc vers Ceuta. Le Premier ministre Pedro Sanchez est attendu dans l'enclave espagnole. Les réactions européennes se multiplient. L'Italie veut suspendre l'Espagne de l'espace Schengen. Les négociations sur Gaza et cette avancée majeure annoncée d'abord par Donald Trump et confirmée par le Hamas, le mouvement islamiste palestinien accepte le principe de son désarmement. En France, l'accalmie se maintient sur le front des incendies en Gironde, notamment plus de la moitié des 224 000 résidents et touristes délogés à titre préventif ont déjà pu rejoindre leur habitation. Bonjour, je vous le disais en titre, les arrivées n'ont pas cessé de la nuit ces derniers jours. 49 000 migrants, majoritairement des jeunes hommes et des adolescents, ont rejoint l'enclave espagnole de Ceuta depuis le Maroc. 18 personnes sont mortes noyées en tentant la traversée. Madrid envoie de nouveaux renforts de forces de l'ordre, dont des plongeurs. Le Maroc n'a pas encore réagi, tandis que le Premier ministre espagnol est attendu dans l'enclave aujourd'hui. Clara Dubanchet.
Il est encore difficile de savoir clairement ce qui a provoqué cette arrivée en masse de migrants. Pieds nus, en maillot de bain, avec un simple t-shirt sur le dos, plusieurs milliers de personnes ont tenté la traversée par la mer. Des centaines de bouées gonflables jonchent encore la plage de Ceuta, témoignage du flux soudain d'arrivées illégales avec les moyens du bord. Hier soir, des milliers de jeunes marocains étaient rassemblés dans le centre de Fnidek, ville marocaine frontalière à l'enclave espagnole. Certains auraient affirmé avoir entendu que la frontière serait ouverte. Commence alors l'exode improvisé, l'affluence de personnes le long de la route côtière allant vers le passage frontalier. Malgré l'intervention musclée des forces de l'ordre espagnoles pour repousser les jeunes, il s'agit de la plus importante arrivée de migrants depuis la grande crise de 2021. À ce moment-là, 10 000 personnes avaient réussi à passer en Espagne en 2 jours. Aujourd'hui, on parle de 5 fois plus d'arrivées en 2 fois moins de temps.
Et suite à cet afflux massif de migrants, les réactions de la communauté internationale se sont enchaînées, Clara.
Oui, les images saisissantes des centaines de personnes sortant de l'eau ont immédiatement été reprises par l'extrême droite européenne et américaine. La Maison-Blanche s'est saisie des images pour défendre sa politique répressive sur l'immigration, alors qu'en Italie, la première ministre, Giorgia Meloni, a dit vouloir suspendre l'Espagne de l'espace Schengen, soutenue ensuite par la ministre finlandaise de l'Intérieur, membre de la droite populiste. Hier, le ministre espagnol de l'Intérieur assurait pourtant que le Maroc et l'Espagne travaillent à mettre en œuvre des mesures pour le transfert vers le Maroc des personnes entrées illégalement à Ceuta.
Merci Clara pour ces précisions. Et puis à Paris, les autorités françaises suivent de près les conséquences de l'afflux massif de migrants du Maroc vers l'enclave espagnole de Ceuta. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Núñez, indique s'être entretenu avec son homologue espagnol et se dit prêt à renforcer les contrôles à la frontière franco-espagnole en cas de mouvement vers la France. On l'écoute.
D'abord, nous avons le contrôle à la frontière franco-espagnole existe. D'ailleurs, il a été renforcé ces derniers mois, puisque nous avons une force mobile qui est présente en permanence et qui renforce ses contrôles. Sur la situation que vous décrivez, je me suis entretenu hier avec mon homologue espagnol, on doit se parler aujourd'hui. Voilà, donc on prendra évidemment des mesures s'il devait y avoir des mouvements vers le territoire national. Et en tout cas, on renforcera évidemment le contrôle à la frontière.
Laurent Núñez, le ministre de l'Intérieur, était ce matin chez nos confrères de RTL. Une avancée majeure dans les négociations sur Gaza. Le Hamas confirme avoir trouvé un accord sur son désarmement prévu dans la deuxième phase du cessez-le-feu avec Israël. L'accord prévoit également un retrait progressif des forces israéliennes qui contrôlent encore plus de 60% de la bande de Gaza. Les modalités et le calendrier restent désormais à définir. Le point avec vous, Thibault Richard.
Oui, Nadia, le Hamas accepte le principe de son désarmement. Après plusieurs semaines de négociations en Égypte, des responsables du mouvement islamiste palestinien confirment qu'un accord a été trouvé sur la question des armes et sur un retrait progressif des forces israéliennes de la bande de Gaza. Ce désarmement constitue l'un des points clés de la deuxième phase du cessez-le-feu, entrée en vigueur en octobre dernier. Selon un négociateur du Hamas, le mouvement a accepté de faire des concessions pour protéger la population de Gaza. Le désarmement doit être confié au Comité national pour l'administration de Gaza, une structure composée de technocrates palestiniens et chargée de gérer le territoire pendant la période de transition. Le Hamas doit encore discuter avec les médiateurs des modalités et du calendrier de mise en œuvre, un processus qui pourrait prendre au moins 2 semaines. Mais reste un point de désaccord majeur, le calendrier du retrait israélien. Une source politique israélienne affirme qu'Israël ne quittera pas la ligne jaune qui sépare les zones contrôlées par les deux camps avant le désarmement total du Hamas et la démilitarisation complète de Gaza. Donald Trump, qui avait annoncé l'accord avant sa confirmation par le Hamas, salue une étape monumentale vers une paix durable. Israël n'a pour l'instant pas officiellement commenté l'annonce.
Au Liban, l'armée israélienne a mené de puissantes explosions près de la forteresse de Beaufort dans le sud du pays. Israël affirme avoir utilisé quelques 700 tonnes d'explosifs pour détruire des tunnels du Hezbollah après une violation présumée du cessez-le-feu. Ces opérations interviennent alors que le château de Beaufort datant de l'époque des croisés vient d'être inscrit par l'UNESCO au patrimoine mondial en péril. Dans ce contexte de fortes tensions, la Turquie se dit prête à contribuer à la sécurité à la souveraineté du Liban après la fin du mandat de la FINUL en décembre. Ankara promet également de soutenir l'armée libanaise et de participer à la reconstruction du sud du pays. L'Iran affirme avoir lancé des drones contre des installations militaires américaines sur la base aérienne Ahmad al-Jaber au Koweït en représailles à une attaque américaine sur l'île iranienne de Keshm. Dans le même temps, les gardiens de la Révolution disent avoir frappé et stoppé 2 pétroliers qui tentaient de franchir le détroit d'Ormuz sous escorte aérienne américaine. 4 autres pétroliers auraient fait demi-tour selon Téhéran. Cette nouvelle escalade intervient alors que le Pakistan tente de relancer les négociations entre Washington et Téhéran. L'Arabie Saoudite annonce la création d'une coalition maritime de 14 pays pour sécuriser la mer Rouge et le détroit stratégique de Bab el-Mandeb. Cette initiative intervient après l'annonce par les Houthis d'un blocus maritime contre le royaume et plusieurs attaques revendiquées contre des pétroliers saoudiens. Riyad assure que cette coalition, qui réunira notamment l'Égypte, la Turquie et plusieurs pays du Golfe, aura un caractère purement défensif. L'actualité en France avec d'abord le front des incendies en Gironde. La situation continue de s'améliorer autour du méga-feu qui a ravagé 42 000 hectares depuis le 22 juillet. Le feu reste contenu dans son périmètre malgré plusieurs secteurs encore actifs et les autorités évoquent une situation désormais stable. Jeudi a marqué une première journée un peu optimiste selon la préfète alors que 84 000 personnes supplémentaires ont pu regagner leur domicile. Sur le plan judiciaire, cette fois, 308 personnes ont été interpellées en France dans le cadre d'enquêtes sur des départs de feu. Selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, environ 2/3 de ces interpellations concernent des soupçons de mise à feu volontaire. 10 départements du centre et du nord-est sont placés en vigilance orange aux orages ce vendredi, en plus d'une vigilance canicule pour 9 d'entre eux. Météo France redoute des phénomènes violents avec grêle, fortes précipitations et rafales pouvant atteindre 100 km/h. La vigilance est maintenue jusqu'à minuit avant une amélioration attendue dans la nuit. Et puis le gouvernement français a gelé pour 6 mois les avoirs de la chroniqueuse russe Xenia Fedorova, déjà visée par un arrêté d'expulsion. Les autorités l'accusent d'être un relais de campagne de désinformation pilotée par Moscou et justifient cette mesure par la prévention de nouveaux actes d'ingérence. Son avocat dénonce une décision manifestement illégale et un acharnement à son encontre. Et là, 35 ans, l'association des scouts musulmans de France a organisé ce mois-ci le Jamboree national et international Terre du Milieu. Pendant une semaine, plus de 300 jeunes gens se sont retrouvés pour vivre une belle aventure placée sous le signe du scoutisme, de la fraternité et de l'éducation à la culture de paix. Des délégations sont venues notamment de Côte d'Ivoire, de Tunisie et de Mauritanie. Abdelhaq Salhi, responsable des relations publiques, ex-président de ce mouvement, nous en touche un mot.
Lorsqu'en 1991, le Cheikh Bentounès crée l'association des scouts musulmans de France, il crée cette association parce qu'on est en plein guerre du Golfe. Hein, rappelez-vous, c'était très conflictuel et il fallait redonner de l'espoir à cette jeunesse musulmane. Et donc, l'idée a été de créer un mouvement de jeunesse et donc c'est les scouts musulmans de France. Ce mouvement n'a pas été créé pour faire, comme il l'avait dit à l'époque, de bons petits musulmans ou de bonnes petites musulmanes, mais plutôt des citoyens à part entière qui sont impliqués dans la vie citoyenne, etc. C'est dans ce sens que très rapidement, les scouts musulmans de France ont rejoint la Fédération du scoutisme français, qui existait depuis des années, depuis 1950 et des poussières, et qui regroupait les scouts et guides de France, à l'époque les scouts de France, donc la partie catholique, les protestants, les israélites, et le scoutisme laïque, on dit le scoutisme laïque, les éclaireurs et éclaireuses de France.
Donc différentes confessions, aussi des scouts laïques, avec des valeurs qui vous rassemblent.
Tout à fait, parce que les valeurs qui rassemblent la fédération, c'est avant tout des valeurs du scoutisme, donc les valeurs de respect, de fraternité, de vivre ensemble en paix. C'est toutes ces valeurs qui regroupent le scoutisme. C'est la vie dans la nature, etc. En fait, c'est des valeurs éducatives. C'est des valeurs éducatives qui permettent aux jeunes de grandir et de s'épanouir et de développer, en fait, avoir un développement personnel, une progression personnelle plutôt dans le mouvement.
Et l'aspect spirituel, si l'on vous écoute bien, on comprend que c'est un des éléments constitutifs.
Tout à fait. L'aspect spirituel dans le sens où on donne du sens à ce qu'on fait. Quel sens lorsqu'on a une action, lorsqu'on fait une action, qu'elle soit culturelle ou autre, quel sens on lui donne. Et c'est ce côté spirituel qui est insufflé au sein des mouvements, en tout cas le mouvement que je connais bien, le Scout musulman de France, c'est ces valeurs qui sont insufflées. C'est d'ailleurs dans ce cadre qu'on a organisé cet été ce fameux rassemblement du Jamboree Terre du Milieu, qui a regroupé plus de 300 jeunes et des responsables qui sont venus de Mauritanie, du Burundi, de la Côte d'Ivoire, comme vous disiez, de plusieurs pays, de la Tunisie, du Koweït, mais également d'Arabie Saoudite. Et j'en oublie, de la Mauritanie, alors il ne faut pas que je les oublie, mais on pourra retrouver toutes les informations sur notre page YouTube, en tout cas sur notre chaîne YouTube. Oui.
Abdelhaq Salhi, ex-président responsable des scouts musulmans de France, il est l'invité de François-Xavier de Calonne dans Grand Angle, ce sera après le flash de 18h. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et merci à Alexandre Ward pour la réalisation. Je vous retrouve tout à l'heure pour le journal de 17h. Excellente suite de programmes sur Radio Orient.